Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Adrien Testu au Chambon-Feugerolles, plus précisément les éco-délégués. Les éco-délégués réunissent des représentants de toutes les classes. Nous mettons en place des projets sur le développement durable au sein de notre lycée. Radio Ondaine nous a accompagnés dans des ateliers pour la préparation d'une série de tables rondes radiophoniques avec des intervenants qui agissent au quotidien en faveur de l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Huillard, bénévole à France Nature Environnement, avec qui nous évoquerons le sujet de l'eau. Bonjour Monsieur Huillard, pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi je suis un simple citoyen, je ne suis pas un spécialiste de l'eau, il y a des métiers de l'eau, il y a des gens qui ont fait de l'eau leur métier avec tous les aspects différents du traitement de l'eau par exemple, ce n'est pas mon cas, moi je suis simplement quelqu'un qui s'intéresse à l'eau, je dirais depuis toujours, même au point de vue je dirais humain ou très personnel, moi j'aimais toujours suivre les petits ruisseaux, essayer de trouver les sources, ça c'est un aspect, et puis plus récemment je me suis intéressé à l'eau sous l'angle de son coût et de sa gestion, à savoir l'eau qui arrive au robinet, par où elle est passée, qui gère tout ça. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis dès qu'on s'intéresse à l'eau dans les tuyaux, on s'intéresse bien sûr avant et après. D'où vient cette eau ? Quelle est-elle ? Quelle est sa qualité ? Comment ça se passe ? Donc mon intérêt s'est élargi et je me suis formé depuis 2-3 ans, donc en lisant des bouquins, en allant à des conférences. Et maintenant, j'en sais un peu plus. C'est ce qui me permet de partager ça. Et puis, je participe dans le cadre de France Nature Environnement, donc une association qui gère différents sujets, mais notamment l'eau. On a un groupe de personnes qui suivent ce sujet en particulier et donc qui ont quelques notions et qui sont là aussi pour diffuser les connaissances et puis alerter sur la question de l'eau parce que vous avez bien compris avec les sécheresses récentes qu'on a un autre regard maintenant sur l'eau. Il est important de la préserver, de la protéger et ça devient un sujet qui est sur le devant de l'actualité même si en ce moment par exemple on est une période où il y en a trop, il y a des excès, il y a des manques, on a une nouvelle vision sur l'eau et France Nature Environnement travaille surtout au respect de l'eau, à la qualité de l'eau et puis des choses à long terme, pas à court terme.
Pouvez-vous nous présenter France Nature Environnement et FNE Loire ?
Alors France Nature Environnement, comme le nom l'indique, c'est sur toute la France. Il y a tout un tas de départements où il y a des groupes locaux. L'environnement, c'est très large. Ça veut dire la végétation, ça veut dire les sols, par exemple, parce que quand on va parler de l'eau, il y a beaucoup d'eau qui est dans les sols. Si on a des sols perméables, eh bien, les sols retiennent l'eau. Ça, c'est important à comprendre. Les animaux, bien sûr, avec toute la diversité. Il y a des animaux à protéger parce que, contrairement à ce qu'on pensait à un moment, l'homme n'est pas seul sur Terre et ne veut pas tuer ou se séparer tout un tas d'animaux. Au contraire, à la fois, ils ont une importance pour ce qu'on appelle le biotope, pour la généralité. Les insectes, c'est très important aussi, les oiseaux. Et on essaie de protéger la faune. Et puis, on essaie aussi d'intervenir sur des sujets qui concernent la ville, par exemple, parce qu'en ville, il y a aussi de l'environnement. Comment, puisqu'on parle de l'eau, justement, comment, quand on est en ville, on peut laisser pénétrer l'eau dans les sols. On est dans un territoire où il y a eu des inondations avec l'Ondaine. On voit bien qu'il faut changer l'urbanisme aussi pour avoir un urbanisme où on a à la fois moins de chaleur en été. La végétation contribue à la fraîcheur en été. Donc, on a aussi un axe analyse de l'urbanisme pour l'environnement. Voilà un petit peu les différents sujets. Donc, il y a dans l'association des professionnels qui suivent ces sujets et puis un grand nombre de bénévoles qui vont sur le terrain, qui font des enquêtes et qui participent à la vie de l'association.
Quelles sont les actions que vous développez au quotidien ? À quel public s'adresse-t-elle ?
Alors, on s'adresse à tous les publics, même si on a des gens qui sont plus spécialisés pour intervenir en milieu scolaire, par exemple, accompagner des projets sur le long terme ou intervenir dans des classes sur des sujets précis, par exemple, pour découvrir ce qu'il y a autour de l'école. Donc ça, c'est un type d'opération. On fait des interventions pour un public adulte avec des petites conférences ou des exposés. Et puis, on a des supports. On produit des documents écrits qui permettent de rassembler des informations. Donc, il y a une production qui n'est pas une production de livres vendus, mais une production de documents disponibles. Et puis, on intervient aussi au plan juridique. Quand il y a des choses qui sont néfastes à l'environnement, on a des juristes qui vont préparer des arguments pour aller contre des décisions qui peuvent être néfastes. Je prends un exemple, par exemple, dans le forêt. Il y a des individus qui ont construit tout près d'un endroit où il y a ce qu'on appelle des tourbières, un endroit où l'eau est beaucoup stockée. Ils ont fait des travaux qui étaient interdits. Ils le savaient. Et bien, à ce moment-là, on va au tribunal pour attaquer cette mauvaise démarche et faire sanctionner les gens qui ont fait cette faute. Voilà les différentes actions de France Nature Environnement.
Qui anime ces actions?
Alors chacun, dans suivant ses compétences, en anime une part. Je parlais juste à l'instant du juridique. On a quelqu'un qui est juriste de formation, qui va préparer les éléments, et nous, on va donner notre avis, savoir si on va plus loin, comment on gère. Ça, c'est la décision. Et puis, il y a la technique. Et puis après, il y a des choses qui sont plus simples. Par exemple, je suis là aujourd'hui ici. Je viens pour partager des informations sur l'eau. C'est ma simple compétence et ma disponibilité qui permet de le faire. Je peux le faire parce que je suis disponible aujourd'hui et il y a des gens qui sont disponibles à d'autres moments. Et puis on a des temps forts avec des fêtes autour de balades, de découvertes de milieux qui sont ouvertes à différents moments et un public qui va s'inscrire au dernier moment pour une balade commentée un samedi ou un dimanche aussi. Voilà, c'est très varié comme type d'action et comme intervenant. Il y a des bénévoles et des professionnels qui interviennent.
Comment êtes-vous formé pour animer ces actions ?
Alors la formation, je dirais, elle est souvent on se forme seul, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que on n'est pas enseignant par exemple ou spécialiste qu'on peut pas soi-même acquérir des notions et puis participer à des opérations qui petit à petit nous permettent d'être en mesure de transmettre, parce qu'il faut qu'on en ait envie, il faut qu'on ait les bases, faut qu'on sache d'où viennent les informations et qu'on les ait bien vérifiées, et puis après on peut le faire simplement parce qu'on a passé suffisamment de temps à se préparer. Bon, ce qui est mon cas, moi j'ai eu un métier avant où j'avais fait de l'animation, ça m'aide à faire des interventions, à faire des animations, mais c'est pas indispensable. Quelqu'un qui s'intéresse bien à un sujet, qui a compris un peu l'essentiel, est en mesure, par plaisir aussi, de retransmettre ces choses, simplement parce qu'il y passe un peu de temps.
Quels sont les objectifs de toutes ces actions ?
L'objectif, je pourrais retourner la question, pourquoi on fait tout ça ? Parce que l'environnement, c'est ce qui nous concerne tous, et plus l'environnement est sain, mieux c'est pour tout le monde, et inversement, plus il est dégradé, plus c'est néfaste, parce que ça va après au-delà de l'aspect sensible, sur les questions de santé publique. Si on a une eau qui est de mauvaise qualité, eh bien, on va avoir des problèmes de santé à terme. Si on a un air qui est très pollué, si on a des choses qui sont néfastes pour l'humain, et les animaux et tout ce qui nous entoure, c'est pénalisant. Donc, l'objectif final, c'est l'environnement le meilleur. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, on a des difficultés parce que des mesures sont pas prises pour certains domaines. Je parle pas seulement du changement climatique et puis de la hausse de la température qui nous dépasse un petit peu, mais l'environnement au quotidien, à savoir préserver les forêts, préserver les cours d'eau, préserver les sites naturels, c'est très important. Et toutes les mesures qui sont néfastes par rapport à ça, eh bien, on essaie de les combattre et faire en sorte qu'il y ait un maximum de mesures positives et de lutter contre les mesures négatives. Voilà un peu les deux facettes.
Nous vous invitons aujourd'hui sur le sujet de l'eau, l'eau que l'on trouve dans la nature et dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce important de parler de l'eau ?
Alors, c'est important parce que l'eau, c'est vital. Si on arrête de manger, on va tenir plusieurs jours. Si on arrête de boire, en quelques jours, on est mort. Donc ça, c'est déjà fondamental. L'eau, c'est vraiment la vie. C'est pas un slogan, c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. C'est quelque chose que chacun peut expérimenter. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc ça, c'est le minimum. Et puis après, on a bien vu qu'en ce moment, le réchauffement fait qu'il y a des changements par rapport à la raréfaction de l'eau. Il y en a beaucoup à certains moments, il y en a très peu à d'autres. Et les grandes sécheresses qu'on a les étés maintenant, qui vont être sans doute de plus en plus fréquentes, ces sécheresses, il faut anticiper le futur, il faut changer certaines méthodes, il faut sûrement consommer moins d'eau, il faut sûrement préserver la ressource. Et c'est pour ça qu'on travaille sur ce sujet qui est devenu, en quelques années, sur le devant d'actualité, mais qui fait qu'il faut vraiment changer les approches et ça va être difficile. Donc il y a une transition à faire, il faut faire autrement, il faut avoir un autre regard sur l'eau. Avant, les hommes considéraient que quand il y a de l'eau, on peut la prendre. C'est comme une ressource inépuisable, on la prend, on s'organise. Mais nous, on pense que c'est plutôt l'inverse. Il faut d'abord regarder quel est l'état de la nature, voir où est l'eau et essayer de la préserver au plus possible. Et puis quand on l'aura bien préservée, ben on va voir combien on en prélève et pourquoi faire. Parce qu'il y a des priorités, il y a des gaspillages. Chacun consomme de l'eau naturellement pour tout un tas d'usages. Et il y a de l'eau aussi qui est consommée pour des constructions d'objets ou d'éléments. Toute la consommation en général consomme de l'eau. Souvent, l'eau, elle est cachée dans les objets. Si on prend un pot de yaourt, ben, il n'y a pas seulement le lait qui a été mis dedans. Il y a toute l'eau qui a été consommée avant dans la laiterie pour faire ce pot de yaourt. Donc, si on regarde ces chiffres-là, ça devient étonnant et ça peut surprendre. Un individu, il consomme 4000 litres d'eau par jour. Vous allez me dire, mais d'où il sort ce chiffre ? Mais c'est tous les objets que l'on a au quotidien et tout notre environnement qui fait que ce n'est pas seulement l'eau du robinet qui est sortie chez nous que je prends en compte, mais c'est dans l'usage commun de notre société moderne qu'on a de l'eau qui est utilisés pour tout notre environnement, tous les objets qu'on fabrique. C'est le jean qu'on porte, c'est 10 000 litres d'eau, parce qu'il a fallu produire le coton, le laver, etc. Donc tous ces objets-là consomment de l'eau. Donc il faut voir quelle est notre consommation et quelle est la limite de consommation qu'on peut donner pour que ce soit durable.
À qui appartient l'eau ?
Alors l'eau, il y a une expression qui est très importante. L'eau, elle est très importante et les hommes se sont organisés autour de l'eau. On voit bien les civilisations anciennes, quand il y avait un puits, quand il y a une rivière, c'est là qu'ils se sont mis. Ils se sont mis au bord de l'eau. Mais à qui elle est cette eau ? Eh bien nous, on pense qu'elle est à tout le monde. L'eau, c'est ce qu'on appelle un bien commun. On ne peut pas dire l'eau, elle est là, c'est pour moi. Il y a une expression qui est particulière dans certains domaines. Ils ont dit, ah mais ma terre, là j'ai un droit d'eau. Non, ce n'est pas un droit d'eau parce qu'il y a un puits ici. C'est une autorisation de prélever de l'eau. Et à ce moment-là, il faut y faire attention. Cette eau, il faut que personne en soit privé. Il faut que chacun en ait suffisamment. Et personne ne peut dire l'eau m'appartient au sens où, parce qu'elle traverserait un terrain que l'on a, qu'on puisse faire n'importe quoi. Donc il y a une organisation globale qui permet de voir quelles sont les ressources, quels sont les prélèvements. Et petit à petit, il va falloir qu'on gère mieux les informations sur l'eau parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas. Dans nos régions, on a des sources à certains endroits, on a quelques puits. Et puis maintenant, il faut faire attention à un détail de cette information. Si on regarde notre territoire, bon, il y a le Grand Fleuve, il y a la Loire, mais il y a plein de petits fleuves, il y a des étangs, il y a ce qu'on appelle aussi des zones humides. Donc tout ça, c'est ce qui concerne l'eau comme bien commun et qu'il faut mieux connaître pour pouvoir la protéger. Donc l'eau est à tout le monde, sous réserve que chacun fasse attention à sa qualité. Et puis c'est pareil, quand on parle d'eau, il y a des choses qui sont très graves, c'est les pollutions. Donc si quelqu'un pollue l'eau, eh bien il est responsable de la faute qu'il a commise pour tout le monde, parce que la pollution va avoir une importance sur la suite du cours d'eau, et ça pose problème. Il faut avoir l'idée, si on voit une bouche d'égout, si on regarde la bouche d'égout, ce qui passe là, ça va où ? Ça va dans l'océan Atlantique. Nous on est au Chambon, eh bien l'eau que l'on fait partir d'ici, elle va se retrouver très très loin. Donc si on l'a dégradée, on a une responsabilité sur la protection de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment un bien commun, c'est pas quelque chose qui peut se dire, dont on peut se dire, elle est là, elle est chez moi, je la prends comme je veux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. L'eau, c'est à partager et c'est un bien commun à protéger.
Qui utilise l'eau ? Quels sont les secteurs d'activité qui en utilisent le plus ?
Alors tout le monde utilise l'eau, déjà, premièrement. Alors, il y a des secteurs qui en utilisent plus que d'autres, mais ça dépend des moments. Donc il y a un gros usager, bien sûr, on le devine, c'est l'agriculture, qui en utilise très peu en hiver, parce qu'ils n'en ont pas besoin, il n'y a pas d'arrosage, et beaucoup plus en été. Et puis après, tout un chacun en utilise chez soi, on a une consommation qui est variable en fonction de ses modes d'activité. Si quelqu'un lave sa voiture tous les 3 jours, il va consommer plus d'eau que quelqu'un qui n'a pas de voiture ou qui fait ça avec parcimonie. Donc la consommation, elle est répartie grosso modo entre les particuliers, c'est seulement, essentiellement l'eau potable, les industriels qui utilisent l'eau dans leur processus de fabrication, tout un tas de choses, et puis les agriculteurs qui en ont aussi besoin, et c'est très important d'avoir de l'eau dans l'agriculture. On défend bien sûr l'usage de l'eau pour l'agriculture, mais il faut voir aussi comment cette eau est utilisée, quelles sont les cultures qui en consomment plus, quel est l'usage des produits agricoles après. Donc en gros, on a les particuliers, les industriels et l'agriculture qui sont les trois grandes familles d'utilisateurs de l'eau.
Comment se répartit la consommation ?
C'est bien un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a ces trois choses-là et puis il y a les moments de l'année. Donc les moments de l'année font qu'il y aura des problèmes parce que justement les sécheresses, elles viennent au moment où on a le plus besoin d'eau en agriculture. Donc cette répartition, elle est plus difficile à ce moment-là. Et il y a eu ce qu'on appelle des arrêtés sécheresses dans les années passées avec des autorisations, avec des mesures. On était en alerte, enfin vigilance, en alerte renforcée. Et il y a même des moments où on interdisait de prélever l'eau, y compris pour les communes qui ne pouvaient plus arroser les espaces fleuris parce qu'on considérait que l'eau était assez trop rare pour qu'on puisse faire ça. Donc voilà un petit peu les moments de l'année différents. Et puis il va falloir sans doute réfléchir à la notion de partage d'eau. Il y a une association donc, sur le département qui s'appelle Partage Eau qui essaie justement de réfléchir à cet aspect-là pour qu'il n'y ait pas ce qu'on entend souvent, les guerres de l'eau. C'est très gênant comme terme. Il n'y a pas lieu à y avoir des guerres de l'eau. Mais il faut s'écouter, il faut voir un petit peu comment chacun peut évoluer dans son comportement par rapport à l'eau pour qu'on puisse préserver la ressource et faire ça sereinement. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis au niveau mondial, on l'avait bien compris, il y a des régions où la sécheresse est extrêmement grande de plusieurs années. Il y a des gens qui vont être obligés de se déplacer parce qu'ils n'ont pas d'eau. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui dépasse ce qui peut se passer dans la Loire, mais dont il faut être au courant. La sécheresse ne concerne pas que notre département. On le voit aussi même pas très loin de chez nous. En Espagne, il y a des territoires qui sont en grande difficulté. Il y a des villes comme Barcelone qui sont en très grande difficulté par rapport à l'eau. Eh bien, ces territoires vont devoir évoluer. Et puis, il y a deux endroits de la Terre où les gens ne pourront pas rester parce que sans eau, on ne peut pas vivre.
Est-ce qu'on manque d'eau aujourd'hui dans la Loire ?
Alors, on manque pas d'eau aujourd'hui dans la Loire, surtout au printemps qu'on a eu avec tout ce qui est tombé il n'y a pas très longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on ne manque pas aujourd'hui qu'il ne faut pas voir ce qui va se passer dans quelques années. La consommation, elle peut varier, mais dans une certaine limite, mais il faut la maîtriser. Les consommations, elles sont assez importantes. Je peux donner quand même deux chiffres qui sont à retenir, qui sont d'ailleurs équivalents. L'agglomération de Saint-Étienne, les 13 communes qui sont dans le même système de gestion de l'eau, consomment 24 millions de mètres cubes dans l'année. L'agriculture, pour le moment, elle consomme aussi, dans le département de la Loire, un chiffre qui vient de la Chambre d'agriculture, 24 millions de mètres cubes. Vous voyez, dans un cas, vous avez 400 000 habitants, à peu près, enfin un peu moins, sur ce périmètre-là, on va dire 300 000. Et dans d'autres cas, vous avez des agriculteurs qui sont indispensables pour nous, qui consomment la même consommation. Mais ce n'est pas forcément le moment. Eux, c'est surtout sur la période juin-septembre que ces 24 millions sont consommés. Et nous, c'est tout au long de l'année parce qu'on n'a pas une grosse variation entre l'hiver et le reste. On fait la vaisselle, on prend des douches, on lave son linge avec ces 24 millions de mètres cubes. Voilà les gros chiffres qu'on peut retenir. Mais il faut comprendre la question future. Est-ce qu'on aura encore autant d'eau? Comment on va pouvoir faire si on en a un peu moins? Quelles vont être les priorités? C'est les débats qui sont devant nous.
Toutes les utilisations de l'eau sont-elles justifiées ?
Alors, est-ce que je suis seul à avoir un avis là-dessus ? Non, il y a des gaspillages qu'il faut éviter. Il y a des usages qui sont surtout au moment de l'année où l'eau est plus rare. Donc les gens ont changé leur comportement aussi. On apprend, bon, on le dit maintenant quand on se brosse les dents, on ferme son robinet, etc. Mais c'est des tout petits gestes. Après, il y a des usages dont on peut se dire, mais est-ce qu'il faut faire ça? Parce que, par exemple, l'eau en bouteille, on s'est aperçu que, pour des raisons économiques, des grosses sociétés prélevaient l'eau pour la mettre dans des bouteilles, pour la faire circuler et la vendre. Soit, mais si on avait tous une autre qualité au robinet, on n'aurait pas besoin de cette eau-là. Donc ces prélèvements-là, qui prennent forcément sur l'eau du robinet au sens large, eh bien, ils sont gênants de mon point de vue. C'est pas un usage injustifié, mais est-ce qu'il va pas falloir se dire, bon, attention, d'accord, ces activités sont intéressantes, mais il y a peut-être des priorités à avoir. Et puis après, chacun peut aussi constater qu'il y a des moments, il y a des usages qui sont pas justifiés. Faut pas gaspiller l'eau au sens la consommer sans usage indispensable. Faut mettre des priorités. Les gens ont aussi évolué. On voit bien maintenant que ce qui s'appelle récupérateur d'eau de pluie, ça s'est vendu en grand nombre. Les gens se sont aperçus que l'eau qui passait du toit, qui allait directement dans les tuyaux après, on pouvait la stocker dans des bacs et s'en servir pour le jardin. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui s'est beaucoup développé. Les marchands de cuves l'ont constaté. Il y a un usage qui est intéressant. Vous pouvez faire l'usage de l'eau de pluie pour le jardin que prendre l'eau du robinet, même si on la paye, parce qu'on a les moyens de dire, moi je m'en moque, je sais quoi les payer, je me débrouille et je prends cette eau-là. Parce que même un particulier, en moment de grande sécheresse, on peut lui interdire d'arroser son jardin parce que c'est pas prioritaire. Il faut qu'il boive, il faut qu'il fasse la cuisine, mais il faut pas arroser le jardin en disant, je peux payer des mètres cubes d'eau, c'est pas un problème. L'eau, elle est quand même rare à certains moments et il faut avoir un autre regard sur la consommation.
Comment, au sein de FNE Loire, vous sensibilisez la population au sujet de l'eau ?
Alors, je le disais tout à l'heure, on a des publications, on a des documents. On fait de la sensibilisation en intervenant dans des sessions où on nous le demande, dans des équipements de quartier, dans des associations qui veulent un sujet sur l'eau. Il y a quelques jours, moi j'étais avec les guides animateurs du parc du Pilat, qui sont des gens qui promènent des groupes dans le Pilat, et on a parlé de l'eau dans le Pilat, avec la diversité des rivières, des petits ruisseaux, voir ce que c'est qu'un ruisseau, voir ce que c'est qu'une vraie rivière plus grosse, voir comment on mesure la qualité d'un cours d'eau. Donc ça, c'est ce type d'intervention que l'on fait à la demande. On est disponible pour ça. On a des gens qui sont ou des animateurs professionnels, comme je disais tout à l'heure, ou des bénévoles qui, de temps en temps, se rendent disponibles pour des groupes. Ça, c'est... Et puis on participe à des réunions où on a des prises de décision auxquelles on participe. Ça, c'est pas la sensibilisation, mais on fait le retour de ce qui se dit. Quand on a des informations importantes qui nous parviennent, on essaie de les diffuser à travers les différents supports, y compris les supports qu'on appelle modernes, lettres d'information, abonnement numérique, qui permettent de savoir où on en est sur le sujet de l'eau dans la Loire.
Selon vous, est-ce que nous aurons le même accès à l'eau dans le futur ? Que faut-il faire tout de suite ?
Alors, selon moi, c'est pas une démarche individuelle. Il faut qu'on change le regard sur l'eau. Je vais aller dans l'excès inverse, je dirais. La Loire, c'est un fleuve. Eh bien, certains voudraient que ce soit une personnalité juridique. Ça voudrait dire que quoi ? Ça voudrait dire qu'on pourrait, la Loire pourrait être défendue en tant que fleuve. C'est un changement de regard. Avant, la Loire, c'était ce qui coulait, on s'en avait un peu peur qu'il y avait des crues. Mais si on dit on lui donne une personnalité juridique, ça veut dire qu'il va falloir la défendre comme on défendrait un individu attaqué. Voilà le changement de regard. Donc on n'en est pas là, mais on en parle un petit peu. On dit on va faire un Parlement de Loire, ça s'est fait pour d'autres rivières. On reconnaît que ce fleuve est tellement important que c'est presque comme une personne à respecter en tant que telle. Donc le changement de mentalité, il est là. C'est pas le fleuve cool, on prend tant qu'on veut et puis on verra bien. S'il en reste après, on verra. C'est voyons ce fleuve, voyons ces cours d'eau comme des choses à respecter, comme on respecterait une personne. Voilà, ça c'est le changement. Alors, je ne dis pas que ça va se faire demain, mais ce changement de regard, il commence à se faire et il faut aller dans ce sens-là pour préserver la ressource en quantité et en qualité, parce qu'on va vers des périodes où il y aura moins d'eau, c'est sûr, même si, quand on regarde la pluviométrie, il va pleuvoir presque autant dans l'année, mais ça ne va pas se faire au même moment. Et la ressource, c'est celle qui est importante quand elle est disponible. Quand on en a trop, elle est gênante. Quand on n'en a pas assez, elle fait problème.
Et nous, que pouvons-nous faire au sein du lycée ?
Je dirais vous documenter aussi. Il y a des choses à savoir. Connaître son environnement, savoir les rivières qui vous entourent, connaître les débits, connaître leur qualité, savoir s'il y a des poissons ou pas, quelle est la vie qu'il y a dans la rivière, parce que c'est un indicateur. Si on voit plein de petits animaux dans la rivière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau est saine et que des organismes vivants s'y développent. Donc ça, c'est une bonne chose. Si ça coule très peu, ben on peut considérer qu'il y a un problème d'écoulement, non pas par la largeur de la rivière, mais par la difficulté. Et puis, si on regarde l'environnement de la rivière, comment sont les bords ? Est-ce qu'il y a de l'ombre ? Est-ce qu'il y a de la végétation ? Est-ce que ça ressemble à un canal ? C'est ça un petit peu le regard qu'on peut avoir pour que chacun regarde autour de soi ben, comment est l'eau, comment ça se passe ? Et puis se fasse une opinion. Et quand il a une décision à prendre ou à participer à une réflexion, qu'il puisse, avec les notions qu'il a eues, dire bah oui, c'est bien d'enlever le bitume dans cette cour d'école et puis de mettre de la terre ou de l'herbe. Parce que quand il va pleuvoir, l'eau ne va pas ruisseler sur le bitume et aller dans les caniveaux avec les problèmes que ça pose quand il y en a trop, mais va rentrer dans le sol, va rafraîchir la cour et va petit à petit descendre plus bas dans le sol et être bénéfique pour le système eau dans son ensemble.
Merci beaucoup, Monsieur Huillard.
Merci pour vos questions.